c'est Lilou. Vous écoutez bien l'émission 10 minutes avec, et aujourd'hui encore, notre invité de l'épisode précédent est revenu au studio de la radio. Corentin Dugas est le créateur et le président actuel de la Fédération Mauvais Cancre. Cette fédération a été créée en 2019. Elle est aujourd'hui sous forme de plusieurs associations, dans différents départements un peu partout en France. Leur principal objectif, lutter contre les inégalités dans le champ des troubles du neurodéveloppement. En effet, les troubles du neurodéveloppement, appelés aussi TND, concernent environ 1 Français sur 10. Ces troubles ont un réel impact au quotidien. Au total, des millions de Français sont concernés. Aujourd'hui, notre invité va vous parler de ces troubles, des handicaps dits invisibles qui sont souvent source d'inégalités au sein de notre société. Avant toute chose, il est très important d'avoir en tête que définir ces troubles est extrêmement compliqué, puisque chaque personne est différente et fait face à des difficultés et surtout des besoins multiples et spécifiques. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien les troubles du neurodéveloppement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu dans les grandes lignes ce que c'est ?
Oui, je vais essayer. C'est très compliqué effectivement de les définir, puisque chaque personne est différente. C'est des troubles, non seulement en fait on est porteur de troubles TND, on meurt porteur de troubles. On a l'impression souvent que c'est des troubles qui vont être seulement pendant l'école, et pas du tout. C'est tout au long de la vie que les personnes vont devoir se battre pour justement avoir une compensation du handicap et se battre, bah, non pas contre leurs difficultés, mais contre la situation de handicap, contre l'environnement qui n'est pas forcément adapté. On dit souvent par exemple que pour les troubles 10, c'est souvent que pendant l'école, parce que non, ça dure tout au long de la vie des difficultés, au travail, au permis, à la vie quotidienne aussi. Les troubles 10, on dit souvent que ça peut être des difficultés parfois, selon certains, pour parler, pour écrire, au niveau de la coordination des gestes, certains pour faire ses lacets, ça peut être aussi des difficultés pour compter, pour réussir à se repérer aussi dans la rue. C'est très multiple. Pour l'autisme, on a tendance à... On parle pas de l'autisme, pardon, on dit trouble du spectre autistique. C'est donc un trouble avec des personnes qui sont très, très différentes. Certaines personnes vont parfois avoir des difficultés pour s'habiller, pour parler, pour communiquer, pour vivre seul. Et d'autres aussi peuvent très bien être porteuses de troubles autistiques, mais avoir des difficultés au niveau des interactions sociales, avoir des difficultés au niveau du niveau sensoriel, le bruit, les lumières, c'est très compliqué pour eux. Et le TDAH, donc trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ça se traduit par plein de façons. Ça peut être des difficultés à s'organiser, à gérer ses émotions. On a aussi des difficultés au niveau de l'hyperactivité, qu'elles soient mentales ou physiques. Et pour le trouble du développement intellectuel, on peut aussi l'appeler déficience intellectuelle ou mentale, ça peut être des difficultés aussi au niveau de l'autonomie. La personne peut avoir du mal à s'habiller, à vivre seule, à communiquer.
Et donc, quels sont les impacts au quotidien des personnes porteuses de TND ? Donc, au niveau de l'école, du travail ?
Sont multiples. Au niveau de l'école, certaines personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement n'ont pas accès à cette école justement, se retrouvent exclues de cette école-là. Ont parfois, certaines personnes TSA ont 2 heures seulement par semaine d'école pour dire comment on fait pour apprendre, comment on fait pour échanger avec les autres, comment on fait pour se construire en ayant ça. C'est aussi des difficultés parce que certains, en fait, on a aussi des structures qui sont dites adaptées comme les instituts médico-éducatifs, les IME, sauf que pour pouvoir y entrer, il faut parfois attendre 5 ans, 8 ans. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Il y a aussi des difficultés parce que les enseignants ne sont pas formés aux troubles du neurodéveloppement et surtout, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir accompagner au mieux les élèves. Et le vrai problème, c'est le système parce que de toute façon, une classe de 30 élèves, comment on fait concrètement pour accompagner un élève en situation de handicap ? Après, il y a aussi des difficultés au niveau notamment du permis, puisqu'on porte effectivement cette enquête sur l'accès au permis où il n'y a pas d'aménagement concret qui existe, à part pour le code de la route pour les 10, mais pas dans tous les départements, pas dans toutes les régions. C'est très peu connu, c'est souvent une fois par mois. Donc, les places sont forcément limitées et surtout, concrètement, il n'y a pas que parce qu'on est 10 qu'on a des difficultés. Il y a aussi pour les personnes TSA, pour les personnes qui sont porteuses de TDAH. C'est au niveau aussi du travail parce qu'on a des entreprises qui sont dites adaptées mais qui ne le sont absolument pas. Et moi, j'ai beaucoup de retours, notamment des personnes qui sont TSA et se rendent compte qu'ils sont dans des entreprises dites adaptées qui ne le sont absolument pas, qui n'ont aucune connaissance du TSA, qui ne sont pas à l'écoute de leurs besoins. Moi, j'ai échangé avec une maman très récemment qui m'expliquait qu'on lui avait dit que son fils ne pouvait pas rester dans cette entreprise parce qu'il était trop lent, alors que c'est une entreprise dite adaptée pour l'aider au mieux. Voilà un peu la réalité. Il y a aussi des difficultés pour l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au sport. On a plein de retours très négatifs sur le terrain qu'on nous dit que les éducateurs ne sont pas formés, les éducateurs sportifs ne sont pas formés à ces particularités-là, ce qui peut créer des moqueries, ce qui peut créer l'indifférence, ce qui peut créer forcément, quand on n'est pas sensibilisé, on est indifférent et on a tendance à ne pas être bienveillant. Ça crée beaucoup de souffrance pour tout le monde, pour les parents, pour les personnes porteuses de troubles aussi.
Et en quoi le diagnostic est-il nécessaire dans le développement d'un enfant ?
Pour 2 choses. Alors, il y a l'accès en fait à la compensation de handicap, le fait d'avoir des aménagements matériels, humains ou financiers, c'est de pouvoir prétendre justement à des aménagements. Et l'autre chose, c'est qu'il faut distinguer du caractère du côté trouble, du neurodéveloppement. Par exemple, quand j'ai parlé du TDAH, certains sont peut-être reconnus en disant qu'on a du mal à s'organiser ou à gérer ses émotions. Sauf qu'une personne TDAH, ce n'est pas juste ça, il y a d'autres choses aussi. Et ça devient très handicapant pour eux. Certains ne dorment pas, certains ont du mal à pouvoir faire quelque chose, à se concentrer plutôt par là. Donc c'est très important au niveau de ça, il faut faire attention aujourd'hui parce qu'il y a un peu un micmac de tout. On a l'impression qu'il y a tout le monde est 10, tout le monde est un peu autiste, c'est pas vrai. Il faut distinguer ce qui a du caractère, ce qui est des difficultés, ce qui est du retard et ce qui est du trouble du neurodéveloppement.
Et je vais te poser la même question pour chez les adultes. Qu'est-ce qu'un diagnostic peut apporter à l'adulte?
Beaucoup d'explications sur ce qu'on peut vivre au cours de sa vie. C'est pour ça qu'il faut bien les accompagner. C'est compliqué pour qu'ils aient un accès au diagnostic. Déjà que c'est compliqué pour les enfants, mais encore plus pour les adultes. Ça permet de se rendre compte peut-être qu'à certains moments, on a pu se dire qu'on était bête, alors que pas du tout, mais c'est simplement qu'on a eu ces troubles-là, qu'on a ces troubles-là. Et qu'on a rencontré ces difficultés-là parce qu'il n'y avait pas de compensation, il n'y avait pas d'aménagement. Et c'est important de se dire qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un diagnostic. Même à 40 ans, même à 90 ans, si on veut, et on y va.
Et pour toi, quelle est ton école idéale?
Une école qui accepte chacun, qui donne sa chance à chacun et chacune, qui surtout met en valeur toutes ces différences, toutes ces forces, on arrête absolument de vouloir avoir des notes à tout prix et on prend davantage en considération ceux qui dérangent au sein du système éducatif, donc justement les personnes porteuses de troubles, et qu'on mette vraiment en lumière toute leur diversité. Puisque comme ça, c'est la société en soi. Il faut qu'on change ce regard sur l'école. Une fois que ça aura changé à l'école, ça aura changé aussi dans la société.
Et tu penses que l'évolution de l'école passerait aussi par la formation des professeurs?
Tout à fait. En fait, il faut les former pour qu'ils comprennent, il faut aussi leur donner des outils pour aider, mais il faut aussi qu'on leur donne les moyens d'aider. Donc avoir 30 élèves dans une classe, c'est très compliqué pour les enseignants, même pour les élèves. Il faut qu'on leur donne les clés pour pouvoir aider chacun.
Et tu as des retours de professeurs qui viennent à l'association pour parler de leur histoire et de leurs difficultés?
Très souvent, on a beaucoup d'enseignants qui viennent nous voir pour comprendre justement qu'est-ce que sont les troubles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider. Et beaucoup sont en souffrance justement de ne pas avoir les moyens de pouvoir le faire.
Et toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à l'école?
Ouh là là. Déjà à faire comprendre aux autres que je n'étais pas étrange ou pas bizarre, comprendre aussi aux enseignants que c'est pas parce que j'étais feignant, c'est pas parce que je ne voulais pas faire. Moi j'ai passé comme beaucoup d'enfants TND des heures et des heures et des heures à apprendre parce que c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus dur parce qu'on se heurte à l'incohérence et l'incompréhension de ces troubles-là. Moi je me suis pris pas mal de réflexions, j'aurais pas mon bac, je ne réussirais pas, on m'a dit que j'étais un peu nul, un peu bête par moments. J'étais souvent au fond de la classe aussi parfois où on te laisse en fait j'ai un souvenir d'un cours de mathématiques qu'on avait tous les jeudis en quatrième et l'enseignant regardait tous les devoirs en fait des autres élèves sauf du mien à chaque fois parce que moi c'était en fait les autres élèves il fallait juste qu'ils fassent un calcul pour comprendre mais moi j'en faisais 10 pour comprendre mais tant que j'avais pas fait ces 10 calculs je voulais essayer quand même mais il regardait jamais mes copies, ça pouvait être ce genre de choses aussi. Ça pouvait être aussi, on peut m'appeler le cancre aussi, d'où mauvais cancre, pour dire que ça n'existe pas, justement, qu'il existe simplement des personnes qui ont besoin de plus d'aide et de soutien que d'autres.
Très bien. Eh bien, ces 10 minutes autour des troubles du neurodéveloppement touchent à leur fin. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le podcast de l'émission disponible sur notre site radioallianceplus.fr dans la rubrique Rencontres, où vous pourrez retrouver le lien du site de la Fédération Mauvais Cancre et un autre lien pour réaliser l'enquête de l'accès au permis pour les personnes porteuses du trouble du neurodéveloppement. Merci à toi, Corentin, d'être venu ici.
Merci d'avoir reçu.
Et à très bientôt.
À bientôt.